C'est incroyable. Et en plus, ils argumentent très bien en utilisant la Bible, la parole, cette parole qu'on vient de dire qu'elle ne revient pas sans effet. C'est bizarre, comment la parole peut ne pas revenir sans effet? Elle ne va pas avoir cet effet qui est de dire que la race blanche est supérieure à la race noire ou toute autre race. Pour nous, ça nous semble incroyable. Comment c'est possible? Il y en a quand même beaucoup des chrétiens qui croient ça. Ces chrétiens que nous sommes appelés à aimer. Et alors, ils s'appuient sur, là je vais vous montrer un des versets, mais il y en a plein d'autres. Il s'appuie sur ce verset-là, qu'on va lire ensemble. Un jour, Ismaël, l'enfant que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, était en train de jouer. Sarah le vit et dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, celui-ci ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. » On retrouve ce passage aussi dans Genèse 16-9, en Genèse 12-16, et toujours une question d'esclave, au moment où Abraham part en Égypte, et que malheureusement, il fait croire que Sarah n'est pas sa femme. Et bref, on ne va pas refaire l'histoire entière, mais il repart avec nombre d'esclaves avec lui. Donc Abraham avait des esclaves. On n'est pas très à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'il faut avoir les bons outils. Parce qu'une fois qu'on a les bons outils, on est à l'aise avec le fait de dire que oui, Abraham avait des esclaves. Est-ce que ça vous intéresse?
Oui.
Merci. Vous pouvez dire non, je passe à un autre sujet si vous voulez. Alors, personnellement, ça me fait bondir. Ça me fait bondir qu'on puisse dire, par exemple, que la race blanche, elle est supérieure à la race coréenne, asiatique. Alors là, c'est plus fort que moi, même si je suis appelée à maîtriser mes émotions. J'ai envie de dire à la personne, mais fais-tu preuve de bon sens? Alors la question c'est pourquoi ces chrétiens se disent, bah, comme Abraham avait des esclaves, bah, il est normal qu'aujourd'hui moi j'en ai aussi. C'est pas grave. Comprenez la réflexion, ils réfléchissent comme ça. Si Abraham avait des esclaves, alors pourquoi pas moi aujourd'hui, je ne pourrais pas en avoir, vu que c'est accepté de Dieu. En plus, le pire, c'est que dans la loi de Moïse, dans la loi mosaïque, en Exode 21, on lit un passage de la loi qui régit l'esclavage, venant de Dieu. Est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord avec cet esclavage? Vous l'avez tous lu, vous l'avez tous lu ce passage. Non? Il faut qu'on soit solide par rapport à ces questions. Il faut qu'on sache répondre à la question de pourquoi je pense en droit légifère sur l'esclavage. C'est très important. Alors, récemment, vas-y, appuie. Voilà. Je vais vous présenter cette dame qui s'appelle Valérie Duval. C'est Pujol. Pujol. Qui la connaît? D'accord. Ok. C'est elle ou c'est pas elle?
Je l'ai connue il y a 30 ans. Hein.
Ah, d'accord. Alors, cette dame, je vais vous la présenter. C'est qui cette dame? En fait, j'ai été mise en relation avec elle tout récemment par le biais de la Fédération CP. On appartient à la Fédération CP, vous le savez. Et donc, du coup, Jonathan Leder, qui fait partie des responsables de cette fédération, m'a mis en contact avec elle. Et cette dame, elle m'avait dit quelque chose par rapport à une question que je me posais. J'étais tombée sur un de ses articles, mais je n'étais pas sûre que ça soit elle. Mais en fait, si c'était vraiment elle, je me suis dit, c'est bien fort. Et voilà qui elle est, cette dame. Vas-y. Alors, elle dit une chose avant qui est hyper importante, que j'ai lue dans son livre. Voilà. La Bible est-elle sexiste? On en parlera après. Elle dit ça. Elle dit, la Bible n'est pas la quatrième personne de la Trinité. J'ai trouvé ça intéressant qu'elle puisse dire ça. Et ça explique une des raisons de pourquoi certains chrétiens disent que la race elle est supérieure et c'est ok avec l'esclavage. C'est parce que, quelque part, elle nous, cette dame qui est théologienne, elle nous pousse à nous poser une question, c'est quel rapport nous entretenons avec la Bible. Vu qu'il est marqué que Dieu légifère sur l'esclavage, légisme, alors du coup, on peut très bien être ok avec l'esclavagisme. Elle dit que ça, c'est parce que nous avons un rapport à la Bible qui n'est pas sain. Est-ce que vous me suivez juste là? Ok? Ce rapport à la Bible, c'est un sujet qui est très délicat. Pourquoi? Parce que nous avons tous un lien avec la Bible assez fort, normalement. J'espère que vous avez un lien avec la Bible fort. Parce qu'elle est quand même la parole de Dieu. Moi, j'aime la Bible. Je la médite tout le temps. J'adore. Maintenant, elle dit, il faut quand même ne pas en faire la quatrième personne de la Trinité. C'est-à-dire que
il faut placer la Bible au bon endroit par rapport à Jésus. Bon. Qui est Valérie Duval-Pujol? On y va. Elle est née le 17 mai 1974. Jusque-là, personne ne va le retenir. Elle a bientôt 50 ans. C'est une théologienne baptiste française. Vas-y. Elle est docteure en histoire des religions à la Sorbonne. Vas-y. Elle exégèse à l'Institut catholique de Paris. Alors, selon le dictionnaire biographique des protestants français de 1787 à nos jours, c'est-à-dire ceux qui recensent tous les protestants, elle est la première française de confession protestante évangélique à obtenir un doctorat en théologie. Waouh, je suis contente. Quand je lis ça, je suis contente. Je me dis, waouh, super. Vas-y. Et elle est vice-présidente de la Fédération protestante de France. Alors, je sais qu'il ne faut pas faire attention au statut, au ceci, au titre, nanana. Mais cette femme, elle a beaucoup étudié la Bible. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qu'elle écrit dans son livre, il est vraiment, vraiment bien. Donc je vous invite vraiment à vous intéresser à qui elle est. Et en plus, elle est en lien avec notre fédération. Donc ça veut dire que quelque part, notre fédération donne du crédit à ce qu'elle dit. Du coup, vas-y. Elle nous pose la question, quel rapport entretenons-nous avec la Bible? Vas-y. Alors, là, c'est moi qui parle, ok? Et moi, je mets ma foi là-dedans. C'est-à-dire, au commencement, était la parole. Et c'est là où je me dis, Saint-Esprit est fort, parce que avec Samuel, il a parlé de la parole, et moi, je parle de la parole. Donc, il y a un truc à saisir pour nous aujourd'hui, en lien avec la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. En prenant ce verset-là, que pouvons-nous affirmer de manière certaine? Qui est la parole? Ben oui, dites le plus fort. C'est Jésus. Ok. Vas-y. Donc la parole est un homme. C'est un homme. Donc c'est pas un objet. Ça c'est important. Parce que c'est peut-être un petit détail. Mais de ce petit détail dérive un truc qui dit qu'on a le droit à l'esclavagisme. Ça peut paraître fou, mais ça vient de là. Et la Bible contient la parole. C'est pour ça que ce livre, il est hyper important. C'est pour ça que ce livre, il faut le méditer tous les jours. Parce que le seul moyen de rencontrer la parole, c'est de l'étudier. C'est d'aller lire. Et c'est d'aller comprendre avec les bons outils. Parce que si on ne comprend pas avec les bons outils, on dérive. Et on dit que c'est OK avec l'esclavagisme. C'est un enjeu hyper important pour nous les chrétiens. Parce que du coup, on n'est plus crédible aux yeux du monde si on dit que c'est OK avec l'esclavagisme. Si nos frères et nos sœurs nous disent que c'est OK avec l'esclavagisme, on ne va pas y arriver comme ça. OK. Vas-y. Oui.
Logos, c'est Dieu. C'est juste parce que ça.
Alors, je vais répondre à ta question après, tu verras. Ouais. Mais elle dit ça.
Ça
c'est la question de la traduction.
On ne peut pas aller en place si on ne met pas les choses dans le sens.
Ça dépend de la traduction que tu veux faire. Je vais en parler après, t'inquiète pas. Donc, il est important de lire la Bible avec intelligence.
Ok, vas-y. Mais alors, on a envie quand même de poser la question. Pourquoi Dieu légifère l'esclavage, l'esclavagisme? Pourquoi dans sa loi on retrouve ça? C'est gênant pour nous aujourd'hui. Je sais pas, mais moi ça me gêne. Mais avec les bons outils, on peut comprendre. Alors vas-y. Le premier outil, c'est qu'il faut toujours revenir au plan originel de Dieu. Il faut se poser la question, est-ce que l'esclavagisme faisait partie du jardin d'Éden avant la chute? Non. Donc, à chaque fois qu'on a quelque chose qui nous gêne, on revient à Genèse 1, 2, 3. Avant la chute, est-ce que l'esclavage était là? Non. Donc, est-ce que Dieu veut l'esclavage? Non. Mais alors, pourquoi il y a une loi qui légifère sur ça? Et là, on pose des bonnes questions. On y va. L'outil numéro 1, c'est l'inculturation. OK? Alors, je vais vous expliquer c'est quoi l'inculturation. Pour se révéler. L'inculturation, c'est qu'on va... Il y a des mœurs qui existent partout où on va. Si on va au Pérou, il y a certaines manières de faire, certaines manières de penser. Il y a une certaine culture, il y a une certaine langue. Si on va en France, c'est différent. Si on va aux États-Unis, c'est encore différent. Si on va en Chine ou en Corée, c'est encore différent. Donc Dieu va se révéler de la manière dont le peuple peut l'entendre. Et il faut bien comprendre que lorsque Moïse donne la loi au peuple, c'est à un moment donné, dans un temps donné. Et à ce moment-là, l'esclavage, c'est OK. Pourquoi ? Parce que la chute est arrivée. Le péché est entré et il y a des choses qui... Le péché a grandi naturellement. Et l'homme ne se rend même plus compte du péché. Il ne se rend même plus compte que l'esclavagisme... C'est un problème. Vous comprenez? Donc dans cette culture-là, Dieu se révèle. Et Dieu, il ne va pas dire, bon, hé, l'esclavage, c'est ça. Voilà. Parce que les gens vont lui rire au nez et ils ne vont pas l'écouter. Est-ce que Dieu, pour autant, est OK avec l'esclavage? Non. Clairement. L'outil numéro 2, c'est le contexte historique. Dans le contexte historique de Moïse, en réalité, cette loi est un grand progrès. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les esclaves ont fait quoi avec les esclaves ? On les tape, on les tue, on ne leur donne pas à manger, on les traite hyper mal. Tandis que si on lit le passage d'Exode 21 à la lumière de ce que je viens de vous dire, vous vous rendez compte à ce moment-là qu'Exode 21 est un progrès. Et quand il dit, si vous prenez des esclaves juifs, au bout d'autant d'années, vous allez le libérer, c'est une révolution pour l'époque. Vas-y. Donc il y a une erreur à ne pas commettre, c'est ne pas remettre un texte dans son temps et sa culture. Un autre exemple, je suis tombée sur l'exemple de l'enfant de paix. Je ne sais pas si vous connaissez, de Don Richardson. C'est un livre, c'est un missionnaire en Guinée. Il allait pour proclamer Jésus en Guinée à des tribus qui n'en avaient jamais parlé. C'était des tribus très violentes, très très violentes. Et en fait, il n'arrêtait pas d'annoncer Jésus, mais ça portait aucun fruit. Il n'arrivait pas à percer, ça n'allait pas. Jusqu'au jour où il a entendu parler de l'enfant de paix. L'enfant de paix, c'est le chef de chaque tribu pour éviter de se faire la guerre les uns aux autres. Chaque chef de tribu prenait leur enfant aîné et le confiait au chef adverse. Et idem de l'autre côté. C'était comme ça qu'ils faisaient pour régler leurs conflits. Alors Don Richardson a expliqué que Jésus était un enfant de paix et que Dieu avait donné son fils unique pour qu'on entre dans la paix. Waouh ! Inculturation. Dieu s'est révélé de la manière dont ces gens en Guinée pouvaient le comprendre. C'est par elle, en donnant une loi comme ça aux Juifs, Dieu est en train de dire « Ne traitez pas mal ces gens. Je ne suis pas d'accord avec l'esclavagisme. Progressez. » Jusqu'au jour où il n'y aura plus d'esclavagisme. Et il y en aura. Et en 1848, c'était terminé. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais passer à un autre sujet. Je suis en train de lire ce livre, « La Bible est-elle sexiste ?» Ça, c'est un deuxième sujet. Une des questions qu'on pose le plus souvent lorsqu'on est à l'extérieur de l'Église, c'est on dit « Oh, mais l'Église, par rapport aux femmes, c'est pas terrible. Hein. » Je leur dis « Ça dépend. Ça dépend où on est. Ça dépend aussi comment on comprend la Bible. C'est toujours la même chose. Parce qu'en effet, il y a des passages dans la Bible qui, traduits d'une manière ou traduits d'une autre, c'est pas la même chose. Là, je pourrais pas prendre l'appareil. Hein. Je pourrais pas prendre le micro, franchement. En fonction d'une traduction, le fait de prendre le micro et de vous parler là maintenant, ça va pas. J'ai pas le droit. Il faut se dire les choses. Mais selon une autre traduction, je peux. Cette dame, Valérie Duval-Pujol, elle est experte en traduction. C'est-à-dire qu'elle a appris le grec, elle a appris l'hébreu. Et son travail, c'est de traduire d'une manière la plus précise possible. Elle explique beaucoup de choses, mais je vais venir d'abord au contexte de la question qui est-ce que la femme a le droit de prêcher ? Est-ce que j'ai le droit d'être là ? Ça fait plus d'un an maintenant que je prends le micro, je n'ai jamais parlé de ça. Parce que c'est tellement un sujet qui fait polémique dans l'Église que je n'avais pas envie de passer du temps là-dessus. Et puis parce que si forcément je prends le micro là, ça veut dire que dans cette Église, on est d'accord. Voilà. Mais c'est toujours la même chose. C'est quel argument on va pouvoir dire aux personnes qui sont à l'extérieur. Parce que ce qui compte, ce n'est pas forcément nous. On a du prix aux yeux, c'est sûr, mais ce qui compte maintenant, c'est que les autres à l'extérieur, ils viennent à Jésus. Et donc, il faut qu'on ait des réponses claires là-dessus. Quelle est la place de la femme dans l'Église ? Est-ce qu'elle a le droit de prêcher ? Est-ce qu'elle a le droit d'enseigner ? Ok. Alors, j'essaie de me retrouver. Ah oui, alors comment cette question elle est arrivée ? Vas-y, appuie. Donc, ok, voilà, vas-y. Alors, l'histoire de cette question. Vous savez que je travaille pour le top chrétien, pour le top formation. Un jour, on faisait une top formation et on faisait un tournage à Paris avec un formateur super, franchement, top, quoi. Et au temps du midi, on mange, et là, il y avait une stagiaire qui était là, plus le responsable de Joyce Meyer Ministries, qui était là aussi, on était à quatre. Et la stagiaire disait, j'aimerais beaucoup prêcher. Ça fait partie de mes tripes, j'ai trop envie, quoi. Et là, lui, avec toute sa sincérité, il a dit, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis un peu tombée des nues, parce que je ne sais pas qui pensait ça. Mais on l'écoute et il dit, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Dans 1 Timothée 2, il est bien clairement dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Et le mot enseigner en grec, c'est ça, ça veut vraiment dire ça. Donc, la femme doit rester à sa place. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de place, mais ça veut dire qu'elle n'a tout simplement elle a pas le droit d'enseigner. Oh, ça m'a perturbée. Ça m'a déstabilisée. Parce que il a peut-être raison. Moi, je suis comme ça. Hein. Quand on me dit quelque chose, je me pose toujours savoir la question si l'autre, ce qu'il est en train de me dire, c'est vrai ou pas. Je dis, mais peut-être qu'il a raison. Et donc, j'ai mis ça un peu de côté et je me suis dit, wow, en tant que chrétien, on veut faire la volonté du Seigneur. Non ? On veut faire la volonté du Seigneur. On veut pas décevoir Dieu. Donc, si le fait que je prêche, ça déçoit Dieu, c'est tout, j'arrête. Ouais. Vas-y. Quel positionnement avoir ? Quel positionnement au final ? Et ce positionnement, il est important encore une fois pour les gens du dehors. Vas-y. Vas-y. Alors, est-ce que cette question, elle est récente ? Elle est vieille, super vieille. Je vais vous lire un passage de Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église. Les pères de l'Église, c'est les croyants qui ont suivi les premiers apôtres. OK ? Qu'est-ce qu'il dit Tertullien ? Quelqu'un veut le lire à ma place ? Comme ça, je repose un peu ma voix. Non ? Bon. Femme, tu enfanteras dans les douleurs et les angoisses, tu seras sans cesse attirée vers ton mari et il te dominera. Il cite Genèse 3. Et tu ne veux pas reconnaître Ève en toi ? Et là, c'est Tertullien qui parle. Il parle à toutes les femmes. Manque de bol, je m'appelle Ève. Ça me met deux fois le couteau dans la plaie. Et tu ne veux pas reconnaître Ève en toi ? La sentence de Dieu sur ce sexe vit encore de nos jours. Eh bien oui, qu'elle vive. Il faut que ce crime demeure comme une opprobre éternelle. Ô femme, tu es la porte par où le démon est entré dans le monde. Tu as découvert l'arbre de la première. Tu as enfreint la loi divine. C'est toi qui as séduit celui que le démon n'eut pas le courage d'attaquer en face. Tu as brisé sans effort l'homme, cette image de Dieu. C'est enfin pour effacer la peine que tu as encourue, c'est-à-dire la mort, que le Fils de Dieu lui-même dut mourir, et tu songes encore à charger d'ornement tes tuniques de peau. Vas-y. C'est donc Tertullien qui est né en 160 après Jésus-Christ et qui est mort en 240 dans son traité de l'ornement des femmes. Et il est de Carthage, à la base. Et sa petite photo, voilà, c'est lui. Donc, cette idée que de la place de la femme, elle est vieille, en fait. Elle est très, très vieille. Et alors, aujourd'hui, on est plutôt dans une époque où la place de la femme, à fond, un peu trop à mon goût, OK ? Parce que la place de l'homme, alors, du coup, il ne sait plus trop, le pauvre. Mais dans tous les cas, il faut avoir une réponse à cette question. Est-ce que 1 Timothée 2 empêche la femme d'enseigner ? Il faut avoir une réponse. Vas-y. Donc le verset qui pose question, « Que les femmes s'instruisent, qu'elles le fassent avec une entière soumission et dans une attitude de tranquillité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme, qu'elle garde une attitude de tranquillité. » Et là, je vais commencer à répondre à ta question. Vas-y. Le problème de la traduction, dit Valérie Duval-Pujol, c'est que la traduction peut être une trahison. Et elle dit, dans tous les cas, ça l'est, parce que quand on voit le texte du grec, tous les mots sont enchaînés, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de titre aux introductions, il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de toutes ces choses-là. Donc le travail de traduction est très difficile. C'est pour ça qu'il faut avoir étudié énormément pour pouvoir commencer à traduire. Heureusement, si vous allez sur le Top Chrétien, vous pouvez commencer à avoir accès à ça. Sur la Bible, Top Bible, vous prenez un verset, vous prenez grec, et vous avez les traductions des mots. Et vous vous rendez compte qu'un mot peut être traduit de 3, voire 4, voire 5 manières différentes. Vous voyez ? Donc il faut prendre le contexte pour vraiment bien le traduire. Vas-y. Là, j'ai une autre traduction. Donc, ce que Josette, elle m'a dit tout à l'heure, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut aller voir les autres traductions. Et il faut comparer. Donc là, cette traduction, elle dit que la femme s'instruise paisiblement dans une entière soumission. Je ne lui permets pas d'enseigner et de dominer sur l'homme, mais je lui demande de garder une attitude paisible. Vas-y. La première traduction, c'est la traduction de la Nouvelle Française Courant, dont Valérie Duval-Pujol a fait partie. Celle-là, la deuxième traduction, c'est la Darby. La Darby, c'est Monsieur Darby, tout simplement, vers 1800, qui a vécu dans une certaine époque où la femme, forcément, elle avait la place qu'elle avait. Et c'est ce que dit Valérie Duval-Pujol, c'est-à-dire que le traducteur, parfois, il va traduire en fonction de son époque. D'où l'importance de ne pas trop dire en fonction de son époque, mais en fonction de ce qui est écrit. Vas-y. Reviens avant, s'il te plaît. Si on prend ces deux et qu'on fait un exercice ensemble. D'accord ? Je veux juste vous dire, on part pour faire des exercices. Je vais vous dire, moi, mon positionnement. Peut-être que votre positionnement, il sera autre. Et vous avez le droit. Mais ce que je vous dis, c'est que les gens au dehors nous attendent sur ces questions. Si on voit les deux traductions, la deuxième partie, je ne permets pas, dans la nouvelle française, il est marqué « Je ne permets pas à la femme d'enseigner en prenant le dessus sur l'homme, qu'elle garde une attitude de tranquillité. » Et juste avant, que les femmes s'instruisent. Donc, il y a quelque chose quand même d'important, c'est que Paul, il dit que les femmes doivent s'instruire. Il ne dit pas qu'on ne doit pas étudier. Ben non, il dit on doit s'instruire, on doit y aller. Ok ? Mais comment on doit le faire ? On doit le faire en disant à son professeur, ce que tu dis c'est n'importe quoi. Il parle de comment, de l'attitude de l'élève, comme Marthe au pied de Jésus, qui écoutait et qui était avide de l'enseignement. Marthe et Marie. C'était Marie. Merci. Et donc, c'est comment, c'est quelle attitude nous devons avoir pour être instruite. Une fois qu'on est instruite, est-ce qu'on va enseigner en disant à notre mari, « Marie, tais-toi, t'as tort. » Non. Non. On ne doit pas prendre le dessus sur lui. On ne doit pas prendre le dessus sur l'homme. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. On doit aimer nos maris du mieux qu'on peut, selon les circonstances de nos vies. On est bien d'accord que c'est pas toujours facile. Mais la femme a le droit d'enseigner. Tout dépend comment elle le fait. C'est pareil pour l'homme. L'homme a le droit d'enseigner. Tout dépend comment elle fait. C'est tout. Et dans Darby, c'est clair, je ne lui permets pas d'enseigner, point barre. Donc si on écoute Darby, je pose le micro. Si j'écoute cette nouvelle traduction, je peux parler. Et c'est ce qu'elle dit. Elle commence son livre en disant la traduction. La traduction. Et chacun, voilà, chacun, vous êtes appelé à vous positionner selon les traductions. Je pense que vous avez compris la mienne, vu que je parle. Il y a un truc qui est hyper important, c'est de comprendre en quoi Jésus, dans son comportement avec les femmes, c'était révolutionnaire. Révolutionnaire. Vas-y. Outil de contexte historique, la femme juive du temps de Jésus... Et du temps de Paul. Vas-y. Alors, protégée et honorée dans son rôle d'épouse et de mère, la femme juive était comme exclue de la vie publique où dominait le pouvoir des hommes. C'était comme ça du temps de Jésus. Voilà, c'est tout. Vas-y. Le plus souvent séparée des hommes pour l'office synagogal, privée de l'enseignement de la Torah, elle était aussi dispensée d'une part importante de ses prescriptions. Mieux vaut brûler les paroles de la Torah plutôt que de les livrer aux femmes, dit une tradition rabbinique. Ça ne veut pas dire que tous les juifs pensaient comme ça. On ne va pas condamner tout ça. Non, on ne colle pas des stéréotypes sur un peuple. Mais il n'empêche que, en effet, il y avait certaines traditions qui pensaient comme ça. Donc là, Pierre de Brecht, c'est encore un théologien. Donc lorsque Jésus se met à parler seul à une Samaritaine et qu'il l'enseigne sur qui est Dieu, il fait de la théologie. Lorsque les premières témoins de la résurrection sont des femmes. Lorsque Paul accepte que des couples, dont la femme, soient des responsables de communauté. Où parfois le prénom de la femme est positionné avant l'homme. Ça veut dire que certainement qu'elle est plus investie que l'homme en question ou qu'elle a été chrétienne avant lui. C'est une révolution. Une révolution du temps de Jésus. Je suis intimement persuadée que nous, femmes, nous avons totalement notre place pour prendre la parole tant que nous le faisons bien. Et en respect total envers les hommes qui nous accompagnent. Hommes, nous vous aimons. Nous vous aimons. Vas-y. En conclusion, il y a tellement à dire. Tellement à dire sur l'esclavagisme ou sur le rôle de la femme ou quelles sont les autres questions que le monde se pose. Notre positionnement par rapport à l'homosexualité. Quoi d'autre, les sujets tabous qui font peur. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et les questions ne seront pas traitées de la même manière en fonction de là où on est. Si on parle d'homosexualité en France, on ne va pas parler de la même manière d'homosexualité en Guinée. Rien à voir. On révèle la parole de Dieu dans une culture. Vas-y. Donc les bons outils sont l'inculturation, la Bible, l'histoire de la révélation au fil de l'histoire. Vas-y. Le contexte historique et géographique. Vas-y. La traduction. La globalité d'un texte dans son ensemble. Ça, c'est pour plus tard. C'est-à-dire que si on dit que Paul n'est pas d'accord pour que la femme enseigne, alors pourquoi dans une autre lettre, il autorise à telle ou telle femme d'avoir des responsabilités ? La globalité du message en entier. Voilà, c'était assez... comment dire ? C'était un parcours assez enseignant, pas très exhortant. Plutôt enseignant. Si je veux que vous partiez avec une chose, c'est comment allons-nous annoncer Jésus à l'extérieur ? Lorsqu'on va venir nous voir et qu'on va dire, tu sais, dans la Bible, on accepte l'esclavage, qu'est-ce que tu vas dire ? Comment tu vas expliquer ? Lorsqu'on viendra te voir et qu'on dira, tu sais, la femme, selon la Bible, elle ne peut pas enseigner, qu'est-ce que tu vas dire ? Qu'est-ce que tu vas enseigner ? Lorsqu'on va te dire dans la Bible, on n'aime pas les homosexuels, qu'est-ce que tu vas dire ? On me l'a déjà posé. On me l'a déjà dit. Qu'est-ce qu'on va dire ? Moi, je suis sûre qu'il y a une bonne nouvelle et que l'évangile reste une bonne nouvelle pour tout homme, toute femme sur terre. Tant que nous nous mettons à sa hauteur, comme Jésus a pu le faire pour nous. Il est descendu de son trône de gloire et il est venu dans la chair ici avec nous. On prie ? Si ces mots ont eu quelques répercussions dans votre cœur, eh bien, vous pouvez dire amen. Si vous sentez que ça coince, que ça, c'est difficile un peu, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de dire amen. Seigneur Jésus, on te remet tout ce qu'on vient de dire. Je te prie, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de nous donner une lecture intelligente de la Bible, de pouvoir utiliser ces bons outils pour comprendre à quel point tu nous aimes et à quel point tu t'adaptes à nous en fonction de notre temps, en fonction de notre culture, pour expliquer qui tu es. Je te prie vraiment, Seigneur Jésus, de nous outiller pour ce que lorsqu'on va partir en Guinée comme la vague, alors qu'ils aient la bonne parole, qu'ils savent dire qui tu es dans le langage de Guinée. Je te prie pour que nous, ici, nous puissions annoncer qui tu es dans le langage de la France, sans te trahir. Je te prie que nous puissions avoir la bonne phrase pour parler à nos familles, à nos amis qui ne sont pas encore à toi. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à nous mettre à la hauteur de l'autre pour dire qui tu es, comme tu as fait pour nous. T'as tout quitté pour venir nous voir, pour nous parler, pour mourir à la croix et pour qu'on ressuscite avec toi. Amen.